Avec grand plaisir, je l'accueille comme à tous les vendredis. Elle est chef d'antenne francophone à CEPAC. Elle est à la tête de l'émission L'Essentiel. Esther Bégin est avec moi. Bonjour Esther.
Bonjour Rox, comment vas-tu?
Bien, merci. Content de te retrouver après une absence la semaine passée. Je n'étais pas là. Alors, je suis
contente de te retrouver également.
Oui, il y a beaucoup d'actualités dans la dernière semaine, surtout de l'actualité économique.
Exactement.
Pas toutes des bonnes nouvelles pour le gouvernement Trudeau.
Non, ça a été une dure semaine, en fait, pour le gouvernement Justin Trudeau sur le plan économique. Une semaine qui, quand même, se termine, faut le dire, par la signature de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Ça a eu lieu ce matin en marge du sommet du G20 en Argentine. Évidemment, faut le dire quand même, c'est une étape. Là, il reste encore à ratifier l'entente. Ça devrait se faire l'an prochain avant que finalement cette entente-là entre en vigueur. Mais en fait, c'est une signature, je dirais, douce amère parce que les tarifs américains sur l'aluminium et l'acier restent en vigueur. Et ça survient au terme d'une semaine, comme on le disait, où les mauvaises nouvelles économiques vraiment se sont succédées au Canada et qui ont donné l'impression, curieusement, probablement faussement, là, que le Canada profite pas tant que ça, finalement, des ententes de libre-échange avec les Amériques et avec l'Europe. Bon, la semaine a commencé par l'annonce de la fermeture de l'usine d'assemblage de GM à Oshawa. Vraiment, ça a été une grosse surprise. On a l'impression que personne ne l'a vu venir. 2 900 emplois qui vont être perdus à la fin de 2019. Mais ce qui a surpris beaucoup cette semaine, je te dirais, à Ottawa, c'est la rapidité avec laquelle le gouvernement a paru résigné dans cette nouvelle-là. Tu sais, le ministre Bain de l'Innovation a tout de suite annoncé des mesures pour venir en aide aux employés qui vont perdre leur emploi, faciliter l'accès à l'assurance-emploi, allonger le nombre de semaines de prestations, alors que les syndicats demandaient au gouvernement, finalement, de se battre pour essayer de sauver l'usine. Tu sais que c'est des emplois qui sont très bien rémunérés, hein, à Oshawa. Ça peut aller jusqu'à 100 000 $ par année. Donc, c'est pas évident que l'assurance-emploi va pouvoir compenser pour ça. Hein, tu sais. On a aussi rappelé qu'à la suite de la crise de 2009, le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario avaient consenti un prêt de quand même quelques milliards de dollars là, à GM. On a vraiment pressé le gouvernement du côté des syndicats de tenter de sauver l'usine. Pendant ce temps-là, le ministre Baines disait on va vous arranger ça pour que vous puissiez recevoir des prestations d'assurance-emploi rapidement. Pendant ce temps-là, ce qui était quand même spécial de voir, c'est combien aux États-Unis, où on a aussi annoncé la fermeture d'usines, le président Trump a réagi, mais vraiment très fortement, je dirais, fidèle à lui-même. Là, il a menacé de couper des subventions à GM, il a remis en question la loyauté de GM, parce que GM a pas fermé d'usine au Mexique. T'sais, c'est vraiment le type de réaction qui a plu aux syndicats aux États-Unis, puis ça contrastait, le moins on peut le dire, avec l'approche du gouvernement Trudeau, qui a semblé quand même assez rapidement jeter la serviette, on passe à un autre appel, c'est fini, GM à Oshawa. T'sais, donc, ça a été une réaction de résignation rapide pour le gouvernement Trudeau. Et le lendemain, on apprenait que Bombardier, au Québec, est en voie d'échapper un gros contrat, un contrat d'un milliard, tu sais, de Via Rail, qui est une société de la couronne canadienne pour la construction de 32 trains destinés au corridor Québec-Windsor. Donc, selon ce qu'on apprend, c'est que le contrat serait accordé à la française Siemens, qui construirait une partie des wagons en Californie. Donc, affront suprême, il n'y a rien qui va se faire au Canada. Il faut dire que le contrat n'a pas encore été officiellement accordé, mais plusieurs estiment que ça va se faire avant Noël. Donc, là encore, très rapidement, le gouvernement Trudeau a paru résigné. Tu as entendu, j'imagine, comme moi, le ministre des Transports, Marc Garneau, qui a dit qu'il ne pouvait pas intervenir. Pour le citer, il dit on n'a pas le droit d'imposer des règles qui favoriseraient des compagnies canadiennes quand on croit au traité de libre-échange. Tu sais, évidemment, il a raison, là, mais à Québec, le premier ministre Legault, lui, était indigné, réagissait très fortement, dit « ça n'a pas de bon sens ». C'est souvent une phrase que le premier ministre Legault utilise, « ça n'a pas de bon sens qu'on puisse pas faire pression sur une société de la couronne quand elle octroie des contrats comme ça, d'autant plus que c'est un contrat d'1 milliard, qu'on puisse pas exiger du contenu canadien ». Même si, comme le dit le ministre Garneau, ça fait partie des règles du libre-échange. C'est quand même des arguments qui trouvent une résonance dans la population. Je ne sais pas si tu en as parlé cette semaine dans tes émissions, mais il y a des gens là, qui pensent que le Canada... ça a à voir avec le libre-échange, qu'on ne bénéficie pas tant que ça des accords, que le Canada perd des emplois, tu sais, avec les traités de libre-échange. Donc, tu sais, c'est curieux que ça arrive au moment où, finalement, en plein, à la fin de la semaine, on signe cet accord-là. Donc,
puis on est beaucoup à la merci des États-Unis. Je veux dire, quand ça ne fait pas l'affaire de M. Trump, il l'a changé à son avantage, puis dans le fond, on est, pour prendre ton expression, on est résigné rapidement. Bon, ben OK, ben, mais les tarifs sont maintenus, sur notamment l'aluminium, ah ben OK. Puis, tu sais, je veux dire, juste dans l'automobile, M. Trump a dit, ouais, ben, si c'est pour être comme ça, je vais imposer des tarifs si vous faites, pour les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Ça me fait penser aux boxeurs. Je veux dire, nous autres, au Canada, là, aussitôt que ça a commencé à aller mal dans le ring, nous, on a décidé de panser les plaies, on n'a pas levé les gants, puis on n'a pas commencé à soigner non plus. T'sais. On a décidé, OK, on retourne dans notre coin, puis on fait avec. C'est un petit peu ça qui s'est passé.
C'est l'image que ça a donnée, en fait, cette semaine. C'est sûr que les lois du libre-échange sont ce qu'elles sont, mais au niveau des perceptions, c'est l'image qu'on a eue du gouvernement cette semaine. Et comme si c'était pas assez, on a appris hier, je ne sais pas si tu as suivi ça, que les coûts au gouvernement canadien pour la migration irrégulière, vraiment, ça a littéralement explosé. Tu sais, les demandeurs de statut de réfugiés qui sont arrivés de façon massive, comme par exemple ceux qui ont emprunté le chemin Roxham, tu sais, dans le secteur de Saint-Bernard-de-la-Colle, au plus fort des flots de migrants, tu sais, qui arrivaient par centaines et par centaines à chaque semaine au pays. Donc, le directeur parlementaire du budget a mis son nez là-dedans et a remis son rapport hier. On apprenait que pour 2017-2018, ça a coûté 340 millions de dollars au gouvernement canadien, alors que le gouvernement avait budgété 173 millions. Tu sais, c'est 167 millions de dollars de plus que ce qu'on avait budgété parce qu'il est arrivé plus de migrants irréguliers que ce à quoi on s'attendait. Tu sais, le directeur parlementaire décortiquait les chiffres. Il estime que chaque demandeur de statut de réfugié qui traverse la frontière ailleurs qu'à un point d'entrée officiel, donc de façon irrégulière, ça coûte en moyenne 14 000 dollars. En 2017-2018, c'est ce que ça a coûté. Pour 2019-2020, ça coûte en moyenne pour un migrant qui traverse la frontière 16 000 $. Donc, on parle vraiment des frais supplémentaires là, occasionnés par l'Agence des douanes, la GRC, l'armée, la Commission d'immigration, c'est qui doit étudier ces demandes-là. Ouais. Puis aussi pour les frais de santé, parce que tu sais que c'est le gouvernement fédéral qui paie pour les soins de santé. Certains arrivent ici, ont quitté les pays en guerre, en famine, vraiment arrivent mal en point, et c'est le gouvernement fédéral qui paie pour les frais de santé. Donc, un total en 2017-2018, 340 millions. Et pour 2019-2020, 396 millions. Tu sais, puis le directeur parlementaire, ça, c'est le chiffre qu'on entendait hier partout, estime que si ça continue comme ça, que si on continue à traiter certains dossiers en longueur, parce que pour certains migrants, ça peut prendre quelques années avant que leur situation se régularise, ça pourrait coûter jusqu'à 1,1 milliard de dollars au gouvernement canadien. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Évidemment, ça inclut pas ce que ça coûte aux provinces et aux municipalités qui reçoivent les migrants, qui les logent temporairement. Tu sais que le Québec a déjà réclamé 174 millions à Ottawa et l'Ontario estime que ça va lui coûter 200 millions. Donc, les frais, vraiment, ont explosé. Ouais. Les conservateurs, tout de suite, hier, ont fait savoir qu'ils vont demander une enquête au vérificateur général du Canada sur ce qu'ils appellent la mauvaise gestion par le gouvernement Trudeau de la crise des passagers illégaux à la frontière. C'est que les conservateurs en ratent jamais une pour nous rappeler le fameux tweet du premier ministre Trudeau dans la foulée de la crise en Syrie. Bienvenue au Canada, tu te rappelles de ça?
Oui.
Alors, c'est rien pour aider, je te dirais. Et tout ça, c'est survenu cette semaine, alors qu'on apprenait la semaine dernière dans l'énoncé économique du ministre Bill Morneau. Toi, tu étais en vacances, mais donc le ministre des Finances a présenté son énoncé économique. On a appris que le Canada s'achemine vers un déficit de 18,1 milliards cette année, de 19,6 milliards l'an prochain, que les déficits au Canada commenceront pas à baisser avant 2021-2022. Donc, quand même, on est dans une situation où l'économie va bien au Canada. Là, on peut pas se plaindre, mais si ça devait se mettent à mal aller, peut-être que ça pourrait se compliquer pour le gouvernement Trudeau, hein, parce que ça fait plusieurs mauvaises nouvelles économiques où on a l'impression que le gouvernement pourrait éventuellement être placé sur la défensive.
Et tout ça se termine par la participation de M. Trudeau au G20.
Oui.
Donc, il quitte Ottawa. Peut-être que ça va lui faire du bien de quitter un peu ces mauvaises nouvelles mm-hmm. économiques. Aujourd'hui, on signe l'accord du libre-échange.
Ça a été fait ce matin.
C'est
oui.
ça. Et, uh-huh. et là, les discussions du G20 se poursuivent.
Oui. En fait, le sommet attire l'attention, surtout à cause des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le premier ministre Trudeau, lui, a dit qu'il voudrait parler de sécurité nationale. Ce qu'on suit aussi, c'est que le prince héritier saoudien, Ben Salman, participe aussi au sommet. On s'attend à ce qu'il soit peut-être question de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Tu sais qu'hier, la ministre des Affaires étrangères, Mme Freeland, a annoncé des sanctions contre 17 ressortissants saoudiens qui pourraient être liés à ces meurtres-là. On parle d'un gel économique, gel des avoirs, en fait, de ces ressortissants-là. C'est assez symbolique, mais il faudra voir s'il y a des suites au sommet. Sommet qui se poursuit et qui se termine, en fait, samedi soir, à Buenos Aires.
Très bien. Ben merci. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
Ça me fait plaisir, Rock.
Merci.
Bonne semaine à toi aussi.
Bye-bye.
Bye-bye, ciao.
Okay.
Bye.
Alors, Esther Bégin, chef d'antenne francophone à CEPAC, elle est à la tête de l'émission L'Essentiel.